Je ne connais pas exactement le nombre d'enfants dont a accouché ma grand-mère. J'ai entendu 13, j'ai entendu 15. Seuls 7 ont survécu. 4 filles et 3 garçons. Enceinte, ma grand-mère travaillait jusqu'au dernier moment dans les champs. Elle a raconté à ma mère qu'elle ne laissait personne connaître exactement le terme de sa grossesse parce qu'elle ne voulait pas de mauvais œil sur elle et sur son enfant à naître. Quand elle ressentait des contractions, elle disait qu'elle se sentait fiévreuse et rentrait à la maison. Là, elle accouchait toute seule, accroupie, sur une toile de jute. J'aimerais pouvoir faire de cette dernière phrase quelque chose de banal. J'ai cherché à l'écrire différemment, à remplacer les mots par d'autres, moins évocateurs, plus flous, moins précis, pour que cette phrase dise ce qu'elle a à dire, mais qu'elle le dise de manière détournée, qu'elle devienne fine et plate et banale et qu'on puisse la lire comme une information un peu insipide. Je pourrais aussi y ajouter des adjectifs, des adverbes, d'autres mots encore, parler de ce qu'il y a autour, du décor, du temps. Je pourrais tergiverser, noyer cette information dans des éléments de documentation, dans des statistiques. Comme c'est étrange cette marche arrière tout à coup. À essayer de rajouter du flou, de l'à peu près, de l'accessoire, je tente de faire exactement le contraire de ce que je fais d'habitude quand j'écris. Pourtant elle est là, cette phrase, et elle porte la vérité implacable d'une femme qui connaît son corps par cœur, qui accouche comme si elle était la première humaine au monde. Son instinct mammifère, animal, maternel poussé à fond. Une femme qui a éprouvé et accepté sa solitude face à un monde dont elle se méfie. Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Valentin Dedon et je suis ravi de vous retrouver sur Radio G pour un nouvel épisode d'Albertine, l'émission qui se souvient de nos grands-mères. De lundi par mois à 13h, en semaine impair, mais aussi quand vous le désirez sur radio-g.fr, on se souvient de nos grands-mères avec une ou un invité. C'est l'histoire d'une femme d'origine indienne, mariée au hasard à 12 ans dans une plantation de canne à sucre sur l'île Maurice, où déjà elle travaille, asservie par le colonisateur anglais. C'est l'histoire d'une femme qui accouche seule, l'histoire d'une grand-mère non oubliée, racontée par sa petite-fille Natacha Apana dans le livre « La mémoire délavée », paru en 2023 au Mercure de France et dont je viens de lire un extrait en exorde de cet épisode. C'est l'histoire d'une femme et ces deux mots, femme, histoire, semblent guider mon invité du jour, que je suis ravi de recevoir à ce micro, Christine Barre, professeure d'histoire contemporaine à l'Université d'Angers, présidente de l'association Archives du Féminisme et coprésidente de l'association pour un musée des féminismes. Elle est aussi l'autrice de nombreux ouvrages sur ses recherches, ses sujets phares ou son passé familial, dont celui-ci au titre délicieux « L'histoire traverse nos peaux ». Un premier volet autour de Jack, son papa, en attendant la suite à propos d'une grand-mère dont nous allons ensemble parler. Bienvenue Christine et merci d'avoir accepté l'invitation d'Albertine.
Merci, avec grand plaisir.
Alors Christine, première question rituelle de cette émission, c'était quoi le prénom de vos grands-mères ?
Fernande et Madeleine.
Et vous, comment vous les appeliez ?
Mémé Fernande, mamie pour Madeleine, ce qui correspond parfaitement à leur statut social à l'une et à l'autre. Mémé du côté prolétaire, mamie du côté plus classe moyenne.
Alors cette mamie, Madeleine, qui elle était ? On va commencer par elle peut-être.
Allez, c'est assez contrasté. La mamie Madeleine, elle était à Château-Gontier, une famille de petits commerçants, artisans, imprimeurs, libraires, très, très catholiques. Donc moi, je venais la voir pendant mes vacances parce que j'habitais dans le Nord. Et dans le Nord, j'avais ma mémé qui était comme une deuxième maman. Qui vivait quasiment avec nous et qui était d'origine belge. Et elle avait eu toute une vie de travailleuse, de vendeuse de chapeaux, d'ouvrière, chômeuse. Elle a caché beaucoup de ces aspects-là. Ma petite enquête récente m'a procuré des surprises. Voilà, donc deux femmes absolument différentes. Ma mémé était communiste, famille de résistants, anticléricale. Donc, mes parents avaient vécu une sorte de mésalliance et les deux côtés de la famille étaient en tout point opposés. Voilà.
Ouais, vraiment deux univers très distincts.
Très distincts. Et moi, j'ai adoré ma mémé. C'est pas pour rien que j'écris un livre sur elle. Mais j'écrirai aussi mon prochain livre. Ce sera sur ma mère, Jacqueline. Et donc, ça impliquera forcément sa mère, Madeleine.
Et c'est vrai que dans Jack, vous avez des mots un peu durs sur Madeleine, une vraie teigne. On sent que cet univers familial-là, cette femme, il y a des rancœurs, il y a des choses qui ne sont pas forcément acceptées. Vous l'aimez pas trop, quoi. On a le droit aussi de ne pas aimer ses grands-mères.
Oui, je ne l'ai pas du tout aimée, mais il n'y avait pas grand monde qui l'aimait. C'était une femme très méchante, pleine d'une bonne conscience, d'un complexe de supériorité qu'on ressentait beaucoup. Ça passait notamment par la langue, parce que nous, les trois enfants qui venaient du Nord, on avait un accent du Nord assez fort, bon, que j'ai perdu depuis. Mais par exemple, elle se moquait de nous en disant « Nous, en Anjou, nous parlons le français le plus pur ». Il y avait vraiment un complexe de supériorité. Donc moi, j'étais complètement solidaire et peau à peau avec ma mémé du Nord.
Oui, elle avait un mépris pour cette différence-là.
Un mépris de classe, vraiment, oui.
Ça veut dire que vous avez très tôt, très vite dans votre vie, choisi un petit peu votre camp.
J'ai complètement choisi mon camp, mais vraiment, c'était...
Parce que c'était plus que sur un personnage, c'est vraiment presque un choix social, politique.
C'est ça, c'était un facteur de politisation précoce et ça donnait envie de faire de la sociologie, en fait, ça faisait le jeu des différences, en fait, sur toutes sortes de choses concrètes qu'on observe quand on est enfant, les manières de s'habiller, les manières de manger, l'éducation, la conduite à l'égard des enfants... Donc, je n'ai pas beaucoup de mérite à avoir choisi la solidarité avec Mémé. Bon, aussi, il faut l'avouer, parce que c'était une femme très aimante, qui ses petits-enfants la comblaient. Et donc, c'était plaisant de jouer ce rôle-là dans la vie d'une femme âgée. Âgée, qui faisait toujours jeune aussi, qui avait un tempérament aussi très, très plaisant, quoi. Elle adorait les jeunes, la compagnie des jeunes.
Alors même en essayant de parler de Madeleine, on sent que Fernande arrive très vite. Fernande, vous dites dans le livre, vous écrivez le mot de allure, elle avait une allure. C'était quoi cette allure? Est-ce que vous pouvez nous la dessiner un petit peu, Fernande?
Oui, mais d'ailleurs, je l'écris forcément, ça vient assez vite, c'est une de ses caractéristiques. Elle était très élégante. Elle avait une allure un peu atypique dans son milieu, hein, la classe ouvrière du Nord, dans la petite commune de Jeumont, sur la frontière belge. Elle était même physiquement un peu différente. Elle a gardé des cheveux noirs jusqu'à la fin de sa vie. Elle est morte à 86 ans. Elle était grande. Elle était mince, donc elle avait un peu le corps de mode, puisqu'elle avait 20 ans à l'époque de la garçonne. J'ai beaucoup, comme historienne, travaillé sur la mode de la garçonne. Ça n'est pas un hasard, évidemment. Coucou Fernande. Et donc, elle savait où s'habiller, avec peu d'argent, hein, mais elle savait coudre, retoucher des robes. Donc, elle avait toujours de l'allure et elle trouvait que c'était bien mieux que la beauté, hein, d'avoir de l'allure, une présence élégante, porter des hauts talons.
Ça veut dire qu'elle avait un discours, une conversation autour de ça. Vous avez échangé là-dessus sur ce que la différence entre la beauté, l'élégance, c'est intéressant.
Énormément. On parlait beaucoup de ça. J'avais le droit d'aller dans la salle de bain quand elle se maquillait, quand elle finissait sa toilette. Elle me donnait toutes sortes de conseils de beauté. Donc, je me suis pas mal écartée depuis, forcément. Mais on sentait aussi que la séduction était un empouvoirment quand même pour elle, même si elle était sur le plan de la morale sexuelle très. Enfin, elle était très libérale, mais je veux dire, elle n'a pas été une grande séductrice. Elle aurait pu, mais elle n'était pas très attirée par le métier de séductrice.
Et ça veut dire que son besoin d'élégance, sa coquetterie, c'était avant tout pour elle.
C'était une manière de se conformer aux normes aussi, parce qu'on avait beaucoup dit des hommes et des femmes, hein, de la classe ouvrière, qu'ils étaient sales, laids. C'était le vecteur d'une fierté quand même, l'habillement, la toilette, l'hygiène intime. Elle était extrêmement stricte. Contrairement à Madeleine, qui avec son éducation catholique avait une espèce de mépris du corps qui passait aussi par bon, un rapport plus distendu à l'hygiène quotidienne.
Parce qu'il y avait une honte un petit peu du rapport au corps, du toucher
voilà,
le corps.
Voilà, il fallait pas
globalement
trop toucher son corps.
Se laver, c'est déjà toucher son corps.
Hein. Oui, exactement. Or, le corps, il faut le mépriser. Enfin, dans une certaine culture catholique, comme ma grand-mère Fernande avait échappé à ça, je pense que voilà, elle voulait montrer aussi qu'elle avait bien intériorisé les conseils hygiénistes de l'époque. Hein. Voilà, donc elle me faisait des remarques comme bon, ça ne suffit pas de se mettre du parfum, bien sûr, il fallait se parfumer, mais il fallait qu'en dessous ce soit propre. Hein. Voilà, donc c'est toutes sortes de conseils un peu transmis dans la presse de mode aussi de l'époque qu'elle avait intériorisé. Donc pour moi, sa toilette était un spectacle. J'adorais la voir, déjà l'aider à se maquiller. Je mettais du vernis. Voilà, je la trouvais tellement belle. C'était un ravissement d'être dans cette complicité physique avec elle.
Et on vous voit vraiment, petite fille, là, dans ces moments, à admirer cette statue, Fernande. On a l'impression, dans ce que vous disiez, que dans sa manière de s'habiller, d'avoir de l'allure, de prendre soin de son corps, c'est aussi une résistance à l'idée reçue qu'on a de la classe ouvrière. Il y avait une lutte un peu contre ça.
Oui, je pense. Et elle avait, en même temps, elle avait intériorisé beaucoup des nouvelles normes, en fait, sur le corps à partir des années 20. Il faut rester mince, par exemple. Donc, elle était un peu dans le contrôle. Elle était aussi victime, d'une certaine manière, de ces normes.
D'un modèle
surtout,
naissant.
Oui, sur le paraître jeune, ce jeunisme. Dans le corps de mode est un corps très jeune à partir des années 20 et jusqu'à nos jours. Et elle s'est toujours efforcée de faire jeune. Elle avait d'ailleurs un petit truc assez amusant. Elle, quand on lui demandait son âge, elle ajoutait quelques années de manière à ce qu'on lui dise qu'elle ne faisait vraiment pas son âge.
Et de manière plus globale, ces éléments-là dont vous parlez, par rapport à votre connaissance aussi de l'histoire de la femme à certaines époques, ces modèles-là ont créé aussi du mal-être chez les femmes, un mal-être qui n'existait pas avant parce qu'on n'était pas toutes ne pouvaient pas se conformer à ce corps idéal, à ces normes idéales.
C'est possible, ça faisait, oui, bien sûr, ça faisait un tri hein, parmi les femmes. Il y avait celles qui n'arrivaient pas à se conformer, ou d'ailleurs qui ne s'en souciaient pas. Et ma grand-mère pouvait être assez méprisante par rapport aux femmes qui avaient pris de l'embonpoint, qui s'habillaient comme des mémères, je crois qu'elle les appelait les mémères au crochet. Elle pouvait être assez méprisante.
Ça catégorisait un petit peu.
Oui, elle avait un souci de distinction et le souci d'être également originale. Et elle a tout fait pour que son fils unique soit aussi un original.
Donc là, on parle de Jack.
De Jack, mon père, oui.
Le papa poète. Pour revenir à Fernande, donc on est dans le nord de la France, près de Maubeuge, dans la Sambre, c'est ça, près de la Belgique. Qu'est-ce qu'elle fait ? On parle de monde ouvrier. Qu'est-ce qu'elle fait comme métier, comme activité ?
Alors, quand j'étais enfant et adolescente, elle nous disait qu'elle était modiste. Effectivement, quand on était petit, dans le grenier, il y avait beaucoup de chapeaux invendus qui avaient pris la poussière. Elle avait eu un magasin de chapeaux et dans sa jeunesse, elle avait été vendeuse dans un magasin de chapeaux de Maubeuge, tout en habitant Jumont. Et c'était ce qu'on savait. Elle a complètement masqué les longues années d'activité comme ouvrière et comme chômeuse pendant la crise des années 30. Donc les aspects les plus durs de sa vie, elle les a cachés. Là, on peut trouver que c'est un peu bizarre parce qu'en même temps, elle avait une conscience de classe, d'appartenance à la classe ouvrière.
Elle reniait pas cette appartenance.
Non, pas du tout, pas du tout. Au contraire, elle parlait beaucoup de politique. Elle était très fière de son vote communiste, elle me parlait de 36, de la résistance. Donc, elle avait une conscience politique forte, ce que je trouvais génial d'ailleurs. Mon autre grand-mère avait aussi une conscience politique très forte, mais c'était vraiment dans notre bord politique. Voilà, elle avait cette conscience quand même citoyenne.
du coup, son passé ouvrière, c'était voilà, quoi exactement?
Elle l'a caché et donc j'ai failli ne pas le savoir en réalité parce que ma grand-mère est morte en 1994. Et puis, des années après, j'ai trié des vieux papiers chez ma mère. Et là, j'ai trouvé le récapitulatif qu'elle a envoyé à Lille pour toucher sa retraite, le récapitulatif de ses activités. Et ça a failli partir à la poubelle. Et là, je découvre qu'elle a été ouvrière dans une sacherie. Je ne savais même pas ce que c'était une sacherie. C'est une entreprise qui fabrique des sacs très solides pour des matériaux de construction, par exemple. Ça ne devait pas être évident de travailler là. Elle a longuement travaillé aussi dans une verrerie qui fabriquait des bibelots en verre. Donc, des petites entreprises de Jeumont où il n'y avait pas énormément d'emplois pour les femmes. C'était vraiment le règne de la métallurgie. Donc, les femmes étaient épouses de métallurgistes. Elles avaient un rôle de ménagère qui était une véritable activité en fait, économique. Alors certes, elles n'avaient pas de salaire, mais c'était un vrai statut d'être ménagère. Et d'ailleurs, il y avait des manifestations de ménagères, des mouvements sociaux de ménagères. Donc ma grand-mère n'a pas été longtemps ménagère, sauf quand mon père est né en 1937. Là, elle a subi un chômage en fait.
Ça veut dire que c'est déjà un acte fort à cette époque-là de pas forcément accepter son statut de ménagère et de travailler, de vouloir travailler, ou c'était plutôt une nécessité économique?
C'est la nécessité, c'est souvent la nécessité. Quand je me demande mais qu'est-ce qui a le plus déterminé la vie de ma grand-mère, parfois je me dis c'est juste l'économie, c'est juste les aléas des besoins économiques. Des offres ou des non-offres d'emploi dans cette région-là, et quitte à partir ailleurs, puisque ses ancêtres ont immigré en France pour des raisons aussi purement économiques.
De trouver du travail, quoi, simplement. Mm-hmm. Est-ce que vous nous avez raconté un petit peu ces moments-là, dans la salle de bain, à se maquiller, à prendre soin d'elle? Est-ce qu'il y a d'autres souvenirs comme ça, récurrents, des moments forts, des moments qui restent vraiment très forts en vous?
Alors, les moments très forts, puisque je suis une gourmande, c'est tout ce qui se passait dans la cuisine.
Ça, souvent, avec les grands-mères, il y a le côté culinaire, c'est obligatoire.
Même si elle n'était pas une grande cuisinière, elle faisait tout pour gâter ses petits-enfants et nous nourrir. Elle était très mince. Hein, donc, ouais, à un moment, je dis, je mangeais pour elle. J'étais capable de faire deux repas consécutifs, un avec mes parents, on arrivait à 14h chez elle, je remangeais, elle nous préparait un repas, donc c'était une grand-mère aussi nourricière. Donc
parce qu'il fallait que vous mangiez ce qu'elle avait
préparé. Honorer, voilà, ce qu'elle avait préparé, une soupe aux haricots blancs et aux jarrets de porc, par exemple, ou le bouillon de poule, après du vol au vent, après un dessert, un 4 quarts, par exemple, avec beaucoup de beurre. Donc, c'était réjouissant. J'étais un peu rondelette comme enfant, mais ce n'est pas étonnant. Mais c'était les nourritures de l'amour aussi, hein, bien sûr.
Oui, c'est ça, c'est dire je t'aime aussi.
Ça m'a fabriqué comme une gourmande. Mais pour moi, c'est très affectif, comme beaucoup de gens, la nourriture. Et puis... voilà, les soirées devant la télévision, parce qu'elle a eu une télévision avant mes parents. Dormir avec elle et ma grand-mère qui m'endort en chantant des chansons pas vraiment adaptées à l'endormissement des enfants, comme Riquita, jolie fleur de Java. Ou bien, alors, dorme un petit quinquin, ça c'est la berceuse du Nord. Et puis, voilà, elle me réchauffait mes pieds froids et c'était tellement tendre. Voilà.
Et concrètement, oui, donc j'imagine qu'elle habitait la même ville ou en grande proximité de chez vos parents, de où vous habitiez. Et sa maison, c'était un refuge où vous pouviez vous y rendre à votre guise.
Oui, alors maison, il ne faut pas imaginer une maison riche, hein, parce que vraiment, elle avait très peu d'argent. Et d'ailleurs, tout ce qu'elle avait, elle nous le donnait. À vrai dire, toute sa petite retraite, elle disait toujours qu'elle n'avait besoin de rien. Et elle faisait durer ses vêtements. Elle était élégante, mais avec des vêtements qu'elle utilisait toujours. Oui, on était très proches. Bon, elle habitait Jeumont. Avec mes parents, on habitait Maubeuge. Elle faisait tout le temps les allers-retours quotidiens. Ou alors, nous, on y allait. Et puis, quand elle est devenue veuve, quand elle a perdu son deuxième mari en 1980, elle est venue vivre avec mes parents. Donc, les 15 dernières années de sa vie, les 14 dernières années de sa vie ont été parmi les plus heureuses. Elle était vraiment à l'abri. Sur le plan matériel, elle était entourée d'amour et elle avait une vie dure, mais elle ne s'étalait pas sur ce qu'elle avait vécu de difficile. Ça, c'est quand même aussi assez frappant, quoi, les silences de Fernande et sa mauvaise mémoire. J'ai aussi essayé de comprendre pourquoi elle avait tant de mal à parler du passé. Il y a vraiment des traumatismes qui n'ont pas été du tout dits et transmis aux petits-enfants. Je crois que ce n'est pas un hasard. Si je suis devenue historienne, c'est qu'il y avait vraiment une enquête à faire sur ces non-dits, sur ces silences. Notamment, elle est née en 1906 en Belgique et à 3 ans, sa famille, son père, sa mère, son grand frère, ont immigré à Jeumont. Et puis ensuite, il y a eu la guerre et l'occupation du Nord, qui a été une occupation très dure. Donc pendant 4 ans avec des destructions et l'école a été fermée et ma grand-mère a quitté l'école à 10 ans. Elle a vraiment été privée d'instruction, elle a eu faim. Et voilà, ça a été une période très dure pour les gens du Nord. Elle l'a vécu enfant, je pense que voilà, ça laisse des traces. Et puis après, adulte, elle a vécu une deuxième occupation du Nord. Elle y a perdu son frère. C'était une petite famille de 2 enfants. Voilà, donc il y a tout. Et bon, une des choses intéressantes aussi sur ma grand-mère, c'est le fait qu'elle n'a eu qu'un seul enfant, vraiment par choix. Elle-même était issue d'une famille avec seulement 2 enfants. Donc ça contraste avec le texte que vous avez lu tout à l'heure. Elle avait, je pense, une stratégie d'ascension sociale qui passait par un contrôle des naissances très, très strict.
Oui, ça aussi, ça ne ressemble pas forcément à l'époque, à l'endroit. Il y a un vrai choix de choisir sa destinée.
Bien sûr, parce que dans les familles ouvrières du Nord, il y avait souvent beaucoup d'enfants. La classe ouvrière était assez contrastée sur le plan politique. Il y avait aussi un catholicisme très fort dans le Nord. Donc, elle n'était pas concernée. Elle appartenait à cette culture nouvelle, en fait, néo-malthusienne, communiste, anticléricale.
Et il y avait un affranchissement quand même de pas mal de choses, de règles, de choses à tout prix à faire, à croire dans cette société, dans cet endroit, oui. Dans cet espace.
Oui, oui. Elle a contribué, comme tant d'autres, à une vraie transformation sociale. Tout en étant un niveau très modeste, comme on dit, dans la société.
Alors ce livre autour de Fernande, on a le manuscrit sous les yeux, il n'existe pas encore, mais néanmoins, voilà, vous avez fait un travail pour écrire sur elle. Comment on écrit sur son passé familial ? Est-ce que vous avez l'impression d'être quelqu'un d'autre, de vous déplacer par rapport à vos habitudes de travail en tant qu'historienne ?
Oui, parce que... J'ai l'impression d'écrire en ouvrant mon cœur. Donc, je peux écrire mes émotions, mes souvenirs. Mon jeu est présent. Pas trop, mais il est présent. C'est le regard d'une petite fille devenue historienne sur sa grand-mère. Et après, je remonte le temps. Donc, je commence avec mes souvenirs d'enfant. C'est l'époque de Fernande Arduin, puisqu'elle a changé de nom plusieurs fois dans sa vie. Elle a eu 3 noms différents. Ensuite, je remonte à une époque que je n'ai pas connue, l'enfance de mon père, le mariage, les années 30. Et là, heureusement, j'ai beaucoup de petites photos de famille qui m'ont pas beaucoup d'archives écrites, hein, évidemment. C'est classique dans ce milieu, mais beaucoup de petites photos, donc, et puis encore des souvenirs transmis par mon père, donc c'est quand même bien informé par la mémoire familiale. Là, je commence un peu mon enquête, et puis après, sur la période Fernande, donc ça, c'est la période Fernande Barre, et puis je remonte à Fernande Morels, son nom de jeune fille, ses ancêtres, l'histoire de cette migration, ce milieu. Et je remonte jusqu'au moment, alors un peu avec l'aide de la généalogie, mais il faut toujours qu'il y ait un souvenir quand même. S'il n'y a pas de souvenir, des choses qui accrochent un peu aux photos, ça m'intéresse plus tellement.
Oui, c'est la trace qu'a laissé des moments dans la mémoire qui va guider ensuite les choix, l'écriture.
Oui, jusqu'aux arrière-arrière-grands-parents, disons. J'ai une arrière-arrière-grand-mère, par exemple, qui est morte très jeune, piquée par un temps, étouffée. Et ça, c'était frappant comme histoire, je l'avais retenue. Bon, mais ça m'a plu de retrouver sa trace, de retrouver la date exacte de sa mort, de vérifier le nombre de ses enfants, qui était son mari, des petites choses comme ça.
Dans le premier volet, on découvre aussi Julienne, une autre grand-mère, c'est la grand-mère de votre papa, donc votre arrière-grand-mère, et cette relation assez forte, assez douce qu'il avait avec elle.
Oui, je crois que je ne me serais pas lancée dans cette écriture si ça n'avait pas été aussi avec la médiation de mon père, qui était très attaché à ses souvenirs d'enfant, à ses souvenirs familiaux.
Qui à, son espace, à son espace
à son d'enfance. Terroir, ouais. Et aux relations très, très aimantes, très affectueuses qui existaient dans cette famille. Donc c'est très doux pour moi de me replonger dans ou d'imaginer un peu ces liens. Et je trouve que c'est bien, ça fait du bien. Ça fait du bien de se dire, ça existe ces liens-là dans les familles. Bien sûr, je comprends tout à fait le famille, je vous hais, puisque du
vous
côté de Madeleine,
côté.
Voilà, du côté de Madeleine, je vois ce que ça peut produire. Mais la famille peut aussi être un lieu d'amour et de solidarité.
Oui, et on mesure aussi. La richesse dans le départ d'une vie, d'avoir deux espaces très distincts comme ça, de savoir que tout existe aussi, que quelque chose est son contraire. Je trouve ça précieux dans l'éducation de quelqu'un. Christine, merci beaucoup. Il est déjà l'heure de mettre fin à cette conversation grand maternelle. Un grand merci d'être venue nous parler de tous ces grands personnages. Merci à toutes et à tous pour votre écoute et rendez-vous très vite pour un nouvel épisode d'Albertine. On se quitte comme d'habitude avec un texte écrit et lu par notre invitée, Christine Barr.
Parfois, Mémé revient dans mes rêves, si réels. L'inconscient n'oublie rien. Les rôles sont inversés maintenant. C'est moi qui la porte comme elle m'a porté bébé dans des bras aimants et fiers. Elle n'a pas voulu transmettre sa condition prolétaire. Elle n'a pas non plus transmis sa nationalité. Et pourtant, au réveil, j'ai noté « Ma grand-mère Fernande veut sortir de sa maison de vieux, une vraie prison. Je la prends dans mes bras et l'aide à s'échapper. Elle est grande, faible et légère. Ma force physique me permet de la porter, longtemps. Nous allons du côté inconnu de la ville frontalière, le long d'une rive secrète, bordée de jolies maisons anciennes, comme dans un tableau de maître flamand. Puis c'est la campagne, sous un soleil pâle de printemps. Je vois des fleurs jaunes, des saules, des berges de sable. Nos yeux sont ravis par cette beauté et nos cœurs sont pleins de tendresse débordante, euphorisante. Mais il faut faire demi-tour. Nous nous retrouvons dans un bureau pour un interrogatoire avec une employée qui bloque une procédure parce que ma grand-mère n'est pas née française. Mes mots créent un bouclier protecteur. Ils percutent comme ceux d'une avocate. Ma grand-mère est toujours dans mes bras, grande, faible et légère.